Et pour ça, je vais prendre un texte dans le premier chapitre de la Bible. Tu peux commencer à afficher si tu veux. Donc, premier chapitre de la Bible, Genèse 1, et on va lire au verset 28. Voilà, merci. Super. Donc, c'est pendant le temps de la création. On est vraiment au tout début de l'écriture. Et voilà ce que dit Dieu après avoir créé les humains. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En fait, on voit que dès le début de l'humanité, Dieu lui a assigné un mandat, une mission. Ça signifie que Dieu n'a pas créé l'homme simplement, c'est peut-être dur d'en parler pendant ce temps de vacances, mais Dieu n'a pas créé l'homme simplement pour profiter de la beauté de la création et pour passer des vacances perpétuelles dans ce magnifique paradis. Mais Dieu a aussi créé l'homme pour faire quelque chose, pour contribuer, pour, je vais aller jusque-là, collaborer à l'œuvre de la création de Dieu. Donc en fait, dans notre vie quotidienne, l'action, l'activité, le travail de l'homme, de la femme, ne sont pas liés au péché. On ne s'est pas mis à travailler parce que l'homme a péché et que c'est devenu dur. Non, ils ne sont pas liés au péché, ils sont liés au plan de Dieu. Dieu nous a créés pour agir, pour profiter de sa communion et du magnifique paradis qu'est la terre, qu'était la terre avant la chute, mais aussi pour œuvrer, pour travailler. C'est le mandat de Dieu pour l'humanité. C'est un premier point important à signaler. L'action de l'homme, ce n'est pas une conséquence du péché, ou ce n'est pas pour réparer les dégâts de la chute liée au péché, qui à ce moment-là, quand on lit ce texte, ne s'est pas encore produit. Mais l'action de l'homme, elle est ordonnée pour compléter l'œuvre de Dieu. Car si la création de Dieu est qualifiée par lui-même, Dieu le dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, et quand il crée l'homme et la femme, il dit, c'est très bon. C'est très bon, mais c'est la responsabilité de l'homme de compléter la création, en fait. On donne parfois un exemple pour illustrer cela. C'est Dieu qui fournit le blé, mais c'est l'homme qui fait le pain. Et c'est une belle image qu'on peut extrapoler pour notre réflexion. Dieu donne la vigne, mais c'est l'homme qui fait le vin. Et alors, est-ce que ça veut dire que Dieu ne sait pas faire du vin? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu nous donner du pain? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu nous donner du vin? Bien sûr qu'il l'a fait. Pendant 40 ans dans le désert, le pain tombait du ciel, tous les matins, il y en avait. La manne était là, mais c'était un miracle et c'était transitoire. Bien sûr que Dieu sait faire du vin. Jésus, à Cana, a transformé de l'eau en vin. Mais c'était là aussi un miracle. Là aussi, c'est une exception. La règle, c'est que c'est l'homme qui utilise la création de Dieu pour compléter, pour parfaire, pour faire fructifier. C'est extraordinaire quand même que Dieu nous donne ce pouvoir. Que Dieu ne nous ait pas traités comme des petits-enfants, comme des nourrissons qu'il faut nourrir, qu'il faut changer, qu'il faut laver, qu'il faut... Dieu n'a pas tout fait. La création, elle est très bonne, mais elle n'est pas complète, si on peut dire. C'est l'homme qui va compléter. Et c'est le plan de Dieu, c'est le mandat de Dieu. C'est formidable parce que ça veut dire que Dieu nous traite, j'allais dire en être vivant, pas en marionnette. Dieu nous traite avec respect. Dieu, quelque part, a volontairement eu besoin de nous pour compléter la création, pour agir dans la création. Et ça, on le voit dès le début, dès la création du monde, alors avant le péché, donc quand tout est parfait, quand tout est parfait. Mais on le voit tout au long de la Bible, jusque dans le Nouveau Testament aussi. C'est bizarre de le dire comme ça, mais Dieu compte sur l'homme. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi. Quelque temps après le péché, le péché fait irruption dans le monde et l'humanité tombe progressivement dans une déchéance peu commune. Alors, c'est l'épisode du déluge et de l'arche. Qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va recommencer une humanité nouvelle à partir de la famille de Noé et Dieu va lui attribuer un nouveau mandat, ou plutôt compléter ce mandat. Le mandat de... Le mandat de, pour l'humanité naissante, Adam et Ève et leurs descendants, c'était « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez, etc. » Alors « dominer », ça ne voulait pas dire « faites tout ce que vous voulez, détruisez, etc. Hein, réchauffement climatique et compatible. » Ça, c'est venu après. Ça, c'est venu d'un excès ou d'une dérive de l'humanité. Mais c'était de remplir la terre. Ça, c'était un mandat unique. Un mandat, le mandat unique de la terre. Avec Noé, pour l'épisode de Noé, Dieu repart aussi quelque part à zéro. Et Dieu va donc attribuer à, nous, à Noé le mandat de la terre qu'il va compléter. On lit donc dans Genèse 9, versets 1 et 2. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Les mêmes paroles exactement. Dieu redonne un mandat, le mandat. Dieu n'enlève pas le mandat à l'humanité. En disant, vous avez raté, vous avez été nul, vous avez tout gâché, je détruis tout, et puis on va faire autrement. Non, on reprend les mêmes choses. D'une autre façon, la suite nous dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, etc. Donc c'est dominer, dominer. Donc le même mandat est rendu avec, je disais, un complément. C'est qu'on a là ensuite les premiers commandements. Le seul commandement qui avait été donné à Adam et Ève, c'est « tu ne mangeras pas de cet arbre-là ». Avec Noé, il y a d'autres commandements qui viennent. Hein, c'est les fameux sept commandements qu'on trouve dans le judaïsme par rapport aux commandements liés à Noé. Il y a notamment un commandement alimentaire. « Tu mangeras de tout, mais tu ne mangeras pas le sang ». C'est le premier, les premiers commandements qui viennent avec Noé. Et puis ça continue. On a Abraham qui apparaît. Parce que très vite après Noé, l'humanité retombe aussi dans ses travers. Alors Dieu va susciter un homme. Après avoir suscité Noé, il va susciter Abraham. Je devrais dire Abraham, avant de devenir Abraham. Donc Genèse 17, versets 5 à 11. « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. » Selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Alors là, il y a quelque chose d'un petit peu particulier avec Abraham. Au départ, avec Adam et Ève, mandat unique, remplir la terre et la gérer, on dirait aujourd'hui. Deuxième mandat, celui de Noé, pareil, le même, avec un complément de quelques commandements. Troisième mandat, ce mandat-là, il est, je dirais, presque ambigu, confus. On retrouve bien le mandat de la terre. Dès le début, je l'ai souligné, je te rempère d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond, cette fécondité, à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Donc il y a bien ce mandat de la terre pour Abraham. Mais il y a un autre mandat qui se rajoute, qui n'était pas là avant. Verset 8. « Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. » C'était quoi ce pays qu'il habitait comme étranger, sur lequel il naviguait ? C'est Canaan. « En possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Et comme signe de ce mandat un peu particulier aux descendants d'Abraham, il y aura la circoncision, et donc le peuple juif qui va naître, le peuple hébreu, le peuple juif qui va naître. Donc il y a comme un double mandat là chez Abraham. Il y a bien le mandat de la terre qui est là, mais qui va être un petit peu comme endormi, comme voilé. Parce qu'Abraham ne va pas conquérir les nations. Abraham ne va pas aller dans toutes les nations. Et ses premiers descendants non plus, ils vont vraiment rester là dans le pays de Canaan. Parce que c'est ce deuxième mandat qui va être mis en avant, le mandat d'Israël, le mandat de la terre. Et pendant près de 2000 ans, le mandat global de la terre promis à Abraham va être comme en sommeil, comme en attente. C'est le mandat spécifique d'Israël qui prévaut et se développe pendant 2000 ans. Et puis, pendant ces 2000 années, Moïse apparaît. Et on lit dans l'Exode, au chapitre 6, versets 2 à 8, Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, donc le lien est fait, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac, Jacob, je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. » Là, on voit bien, on est dans cette période des 2000 ans où le mandat de la terre, du globe, est endormi. Aucune mention de Moïse. Il mentionne uniquement ce mandat spécifique pour Israël. Et Israël devient donc, avec Moïse et les lois données par l'Éternel, comme un microcosme de l'humanité entière. Un modèle, une vitrine pour être, selon les paroles des prophètes, la lumière des nations. Mais ce n'est qu'après la première venue du Messie que la lumière va peu à peu atteindre l'ensemble du monde habité et des nations. C'est dans cette période, encore aujourd'hui, que nous nous trouvons. Le mandat confié à Jésus se situait encore dans le cadre d'Israël. Il va lui-même l'affirmer, « Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en fait, c'est à ses disciples que va être confié le reste du mandat. Là encore, le Seigneur va confier à l'humanité de compléter son œuvre. Ce n'est pas Jésus qui a évangélisé toute la terre. C'était pourtant le mandat d'Abraham, de toucher la terre entière. Jésus est resté cadré sur, à part avec la syrophénicienne, à part avec les exceptions du centurion romain. Mais sinon, c'était le mandat confié à Israël. Et puis, avec sa venue, sa mort, sa résurrection, là, l'autre mandat à Abraham, celui de la terre entière, va se réveiller, va ressortir. Matthieu 28, 16, 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de tout Israël des disciples. » Mince, je me suis trompé. « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'ai voulu rappeler ce cheminement parce qu'il y a ce mandat qui est là depuis l'origine. Le mandat à Adam, à Noé, à Abraham, à Jésus, aux disciples, toutes les nations. Toutes les nations, le monde entier pour Dieu. Aucun des mandats n'est caduque parce que tous les mandats s'inscrivent dans ce plan. Le mandat à Adam n'est pas caduque, le mandat à Noé non plus, etc., etc., Israël non plus. Israël conserve son mandat et l'Église, greffée sur Israël, reçoit aussi ce mandat d'être la lumière des nations. Alors comment s'accomplit ce double mandat qu'on appellera maintenant apostolique, c'est-à-dire envoyé? Comment il s'accomplit ce mandat apostolique? De deux façons, l'Église l'a fait, l'Église au sens large, global. Par l'implantation d'Églises et par la mise en place d'œuvres dans la société. Thierry Virgo disait souvent, c'est drôle quand même, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, faites dans toutes les nations des disciples, et qu'est-ce qu'ils font? Ils implantent des églises partout. Il y a un spécialiste de la croissance de l'Église, qui est décédé maintenant, récemment, qui s'appelait Peter Wagner, il a étudié la croissance de l'Église, la multiplication des Églises, comment l'Église remplit son mandat. Et il a déclaré un jour que la meilleure façon de gagner une région avec l'Évangile, c'est d'y implanter des églises locales. Les campagnes d'évangélisation, c'est super. Les distributions de tracts, c'est génial. Les distributions de Bibles, c'est extraordinaire. Tous les moyens de témoignage sont formidables. Mais si on veut gagner une région, impacter durablement une région, c'est une implantation d'église. Il n'y a pas d'autre moyen qui fonctionne. J'ai parlé aussi des œuvres. Concernant les œuvres, qu'on appelle parfois les œuvres du royaume, l'histoire de l'Église est pleine d'actions magnifiques pour le soulagement des pauvres, des malades, des veuves, des orphelins. Ça fait partie du mandat de prendre soin de la création, de gérer la création. Il suffit de citer en quelques exemples la création des hôpitaux par l'Église, qu'on appelait à l'époque d'ailleurs des hôtels-dieux. Quel joli nom! Les hôtels-dieux, on n'appelait pas ça des hôpitaux, mais des hôtels-dieux. Tellement on considérait que quand c'est l'Église qui accueille les malades, c'est Dieu qui les reçoit. Je pourrais aussi parler des écoles chrétiennes, des orphelinats, des cantines, de l'aide aux migrants et de tant d'œuvres qui honorent le mandat de soulager la souffrance humaine. Œuvres qui sont des signes de la miséricorde divine. œuvre qui montre que les enfants de Dieu se sont retroussés les manches pour bénir la nation là où Dieu les avait placés. À ce sujet, notre communauté locale, j'irais, n'a pas à rougir avec la création d'œuvres importantes comme l'école La Cévenole, comme le camion douche, comme l'aide aux migrants, comme l'action des limes auprès du peuple juif, et la participation de bien des membres à d'autres œuvres comme Open Joy parmi les prostituées, le ministère Sozo parmi nous qui pendant des années a aidé de nombreuses personnes en difficulté spirituelle et en a amené aussi au salut. Et j'oublie sans doute des œuvres, pardon si j'en ai oublié, c'est sûr que j'en ai oublié. Alpha, mais qui n'est pas une œuvre, que je ne considère pas là comme une œuvre, plus dans une dynamique d'évangélisation et d'implantation. Et donc toutes ces œuvres, elles sont là pour bénir là où on est. Bénir là où on est. C'était le mandat aussi. Mais l'église locale, la nôtre, l'Assemblée chrétienne de Marguerite, a aussi été impliquée dans le mandat d'implantation d'église. Ça faisait partie des paroles prophétiques qu'on avait reçues. Déjà l'implantation elle-même de l'Assemblée chrétienne de Marguerite, qui s'est faite en terrain pionnier, difficile, à partir d'un tout petit groupe envoyé par l'Assemblée chrétienne de Nîmes. Je dis terrain pionnier difficile parce qu'il faut savoir que, alors ça serait un autre sujet, mais cette zone de la région était une zone, on va dire, difficile. C'est-à-dire qu'il y avait comme une frontière, Nîmes et Marguerite se touchent pratiquement, et pourtant spirituellement il y avait comme une frontière presque infranchissable. Nîmes, la Vonage, les Cévennes, c'est plein d'églises et de groupes chrétiens. À partir de Marguerite, la Provence, les environs, beaucoup plus difficile, beaucoup moins d'églises. Comme s'il y avait une frontière. Alors je m'intéressais à ça et j'ai recherché un peu l'histoire. Et il y a un prêtre catholique qui a fait un livre sur l'histoire, l'historique de Marguerite. Et dans ce livre, il y a une partie qui explique comment pendant la réforme protestante, Marguerite, vous savez que c'était la bagarre, au sens propre et au sens figuré, spirituellement et parfois pas que spirituellement, Marguerite a été prise par les protestants, puis repris par les catholiques, puis repris par les protestants, et enfin repris par les catholiques. Et c'était intéressant de savoir ça dans l'histoire, de comprendre pourquoi aussi il y a des choses, bon, alors après on peut interpréter toutes sortes de choses spirituellement, mais comme une difficulté. Et plusieurs églises, dans le passé, dans l'histoire, avaient essayé d'implanter des églises à Marguerite. Si vous allez vous promener dans le village, vous verrez qu'il y a une rue du Temple. Mais si vous cherchez le temple, il n'y en a pas. Il n'y a plus que la rue. Et parce que tout était éradiqué comme ça. Et c'est intéressant que plusieurs églises avaient essayé. Il y a la Ligue pour la lecture de la Bible qui est née à Marguerite. La Ligue pour la lecture de la Bible que certains connaissent en France, elle est née à Marguerite. Ça a été son premier bureau. Mais au niveau église, impossible. Et puis finalement, donc, l'équipe avec Norbert a pu implanter. Puis finalement, l'équipe avec Frédéric Soriano se sont implantées, etc. Combien c'est important ? Combien c'est important ? Et l'Assemblée de Marguerite a aussi largement contribué à l'implantation d'autres églises, comme l'église La Source à Montpellier, comme l'œuvre à Béziers, comme l'église New Life à Roanne avec Paul Germont. Il y aurait plein de choses à raconter là-dessus. L'église Connect à Montélimar, l'accompagnement de l'église d'Alès, des Sarments à Valence. Plus récemment, l'envoi de la famille de Souza à Lomé, la famille B à Genève, pour soutenir cette implantation d'église. La famille Chouzenou à Chamonix, c'est tout frais tout ça. Combien de choses sorties d'une toute petite communauté, mais qui répond au mandat de Dieu. Qui répond au mandat de Dieu. C'est dans l'ADN de notre communauté locale d'être apostolique. Je redis cette phrase parce que je la trouve belle et bien. C'est dans l'ADN de notre communauté locale d'être apostolique au sein d'ailleurs d'une famille apostolique d'église, New Frontiers et New Ground. Mais il y a un risque qui menace notre communauté, qui nous menace tous, qui menace toutes les églises. Il y a un autre spécialiste de l'étude de l'église, et notamment des églises évangéliques, et qui a déclaré un jour que si une église locale n'implante plus pendant une dizaine d'années, alors elle n'implantera plus jamais. Ouais. Il a étudié les églises. Alors moi, je trouve que c'est excessif, parce qu'il y a des quelques contre-exemples. Mais c'est vrai qu'une église locale qui commence à tourner sur elle-même ou sur son propre lieu et qui n'a plus cette vision de sortir et de dire, de répondre au mandat, c'est le nom de notre famille d'église, hein? New Frontiers. Vous savez d'où ça vient ? Nouvelle frontière, c'est bizarre pour une famille d'église. Nous, on est plutôt pour faire des ponts, pas des frontières. Nouvelle frontière, ça venait simplement du fait que l'idée de départ de la famille d'église, c'était de toujours traverser une nouvelle frontière, une nouvelle frontière, une nouvelle frontière pour aller implanter. Il y a la frontière spirituelle entre Nîmes, bourrée d'église, et la Provence assez désertique. Eh bien, on va traverser cette frontière. Amen. Et donc, quand on perd cette dynamique, c'est ce que disait ce spécialiste, eh bien, c'est difficile de la retrouver. Alors, on n'a pas perdu cette dynamique, mais mon rôle, mon but, mon rôle, c'est de la mettre en lumière, de nous parler de ces choses dont on ne parle pas toujours, mais qui sont tellement importantes que le mandat, c'est pas de faire une belle assemblée chrétienne de Marguerite. Le mandat, c'est de gagner ailleurs. C'est de faire, oui, une belle assemblée où on est bien, où on est en famille, où on se régale, mais aussi de regarder toujours plus loin. Alors je crois que pour la CM, il nous faut donc maintenir ou raviver, si nécessaire, le feu pour l'implantation d'églises. C'est la meilleure façon pour une communauté locale de répondre au mandat de Dieu. Plus que ça, il nous faut nous préparer à l'aventure difficile mais merveilleuse de l'implantation d'églises. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour rester tout le temps au même endroit. Oui, certains vont rester tout le temps au même endroit, puis d'autres vont partir. On l'a vécu et on le vivra encore. Et donc, il nous faut nous préparer. Ça veut dire quoi, se préparer à cette mission? Et je dis bien nous, un nous collectif. Parce que qui est-ce qui est concerné par l'implantation d'église? Les spécialistes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, ceux qui sont un peu fous pour... Se lancer dans des aventures improbables, ça nous plairait bien que ce soit ça la vérité. Et la vérité, c'est que c'est chacun de nous. Quand tu deviens chrétien, tu es appelé à t'investir d'une façon ou d'une autre dans une implantation d'église. Ça peut être simplement par ton offrande, par ta prière, simplement. Ça peut être aussi en te joignant à un groupe ou en allant visiter ou en allant faire des missions d'évangélisation, etc., quand il y a un projet. Mais c'est chacun d'entre nous, chaque chrétien est appelé, qu'il parte ou qu'il reste, à s'investir dans l'implantation d'une ou plusieurs églises. Pour ça, je vais vous livrer en conclusion quelques pistes concrètes pour réfléchir et se préparer. Comment ça se prépare et comment ça se passe une implantation d'église? Premièrement, il s'agit, dans notre vision des choses, d'une démarche collective, proactive. Ce n'est pas simplement, je veux dire, parmi nous, un couple qui va se lever et qui va dire « Moi, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller implanter une église, je dis n'importe quoi, à Avignon, ou enfin n'importe, peu importe le lieu. » Ça peut marcher comme ça, mais ce n'est pas la vision d'une église locale qui fonctionne de façon apostolique et avec des références apostoliques. C'est une vision qui doit être globale, collective. Ensemble, Dieu nous parle et ensemble, on désire, et non seulement on désire, mais on veut répondre au mandat apostolique en tant que communauté. Ce sont les anciens et tous les membres qui portent ce dynamisme. Les anciens et les membres. Deuxièmement, il faut préparer les ressources humaines. Alors c'est ce qui se fait déjà parmi nous, mais je l'encourage. Parce que avant d'avoir tué Goliath et de vaincre des armées entières, David s'est d'abord entraîné avec des ours et avec des lions. L'un des meilleurs terrains d'entraînement pour le chrétien, ce sont les petits groupes. Groupes de maison, groupes d'hommes, de femmes, groupes d'activités, parcours alpha, justement. Là, on peut apprendre à prier à haute voix. On peut apprendre à partager la parole de Dieu avec d'autres. On peut s'exercer à prophétiser. Et pour l'année qui vient, je nous encourage tous à avoir un ou des petits groupes où on est investi, où on apprend à fonctionner, où je ne reste pas simplement anonyme le dimanche matin, isolé dans mon coin et à attendre que ça se passe. Non, où je suis impliqué, où je porte la vision avec les autres. Troisièmement, il faut se former bibliquement. Alors attention, chose très importante, il n'y a pas besoin d'être un intellectuel ou un grand théologien pour servir le Seigneur. Ça, c'est faux. C'est faux. Parmi les plus belles églises implantées, c'était parfois par des gens qui n'avaient jamais fait d'études de théologie. Donc voilà, j'insiste sur il faut se former, mais il n'y a pas besoin d'être un grand intellectuel ou un grand théologien. Mais une bonne connaissance biblique sera utile à un moment ou à un autre quand on se lance dans une aventure. Il faut bien sûr, quatrièmement, des personnes qui aiment évangéliser et toucher les incroyants. Et ça, ça concerne tous les croyants parmi nous. On aime nos voisins, on aime tous ceux qui autour de nous ne connaissent pas le Seigneur. Et puis Dieu aussi fait des dons particuliers à certains, des dons d'évangélistes. Et il y a des dons d'évangélistes parmi nous, en devenir ou présent, mais ils sont là, il faut les encourager. Cinquièmement, il faut des personnes qui, si le projet avance, puissent manifester des capacités de gestion administrative. Tellement important de savoir gérer les choses. Pas que l'argent, mais entre autres. Vous savez que dans l'équipe de Jésus, sur 12, il y en avait un qui était chargé des finances. Bon, c'est celui qui a mal tourné. Mais quand même, peut-être justement, il n'avait pas été assez bien formé, il n'avait pas. Mais en tout cas, Jésus avait pris soin que dans le petit groupe d'implantation, parmi 12 personnes, il y en avait un qui avait la capacité de gérer. Sixièmement, il faut des personnes. Alors, ce n'est pas exhaustif. Hein. J'ai 8 points, je suis au sixième. Mais ce n'est pas exhaustif, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus. Une chose sur laquelle je vais insister un petit peu, parce que pendant que je préparais, ça me revenait sans arrêt, et donc je pense que ça a du sens. Il faut aussi des personnes pour conduire la louange. Et ça, c'est tellement important. On a perdu, on a donné un super leader de louange récemment, hein, à la personne de David, et de Véronique d'ailleurs, qui aussi participait. Et c'est vrai que ça oblige à une redistribution au niveau de nos équipes de louanges et ça devient, mais c'est essentiel la louange, les équipes de louanges dans une équipe d'implantation. Alors je dis pas qu'on peut pas implanter sans équipe de louanges, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. D'ailleurs, dans une implantation, souvent l'équipe, elle se résume à une personne ou deux. Mais la louange, elle est essentielle parce que c'est le mandat de l'Église. C'est le mandat du peuple de Dieu. Regardez tabernacle, louange. Regardez le temple, comment David a organisé pour que 24 heures sur 24, dans le temple de Jérusalem, des équipes de louange se relaient. Donc jour et nuit pour louer l'Éternel. Vous vous rendez compte? Jour et nuit. Extraordinaire. Donc ça fait partie. C'est pour ça qu'au début du culte, j'ai lu le psaume 150. Et avec tous ces instruments qui sont dits pour la louange, C'est pour ça que je veux vraiment encourager guitare, piano, percussion, qui sont indispensables dans une louange d'aujourd'hui, mais qui l'étaient aussi à l'époque du roi David, déjà. Et donc je veux vraiment encourager les parents parmi nous à mettre leurs enfants dans des cours de musique, d'une façon ou d'une autre. Très important. On profite, on a tellement bien profité, je vais les reciter encore parce que c'est historiquement un petit peu plus les anciens au niveau de l'Église à ce sujet, mais David B. et Pierre de Vogel, qui ont énormément porté dans les années passées la louange et entraîné d'autres à leur suite, mais dans l'enfance, ils ont été formés. Leurs parents ont dit, on veut en faire aussi des chantres de l'Éternel. Après, s'il n'y a pas les dons, il n'y a pas les dons, ce n'est pas un souci. Passe à autre chose. Mais je veux vraiment encourager les parents à faire de la musique à leurs enfants. Pour le service de Dieu. Pour l'élévation de leur âme, mais pour le service de Dieu aussi. C'est tellement important. Sinon, genre je calculais le nombre d'années, dans 10, 15 ans, je ne sais pas nos leaders de louange, quel âge ils auront dans 15 ans ou 20 ans, mais sinon il peut y avoir un trou. Et on retournera à l'harmonium ? Ah non ! Ah non ! Oui, l'implantation d'église, ça passe aussi par les cours de musique pour nos enfants. Alors, quand je dis les enfants, il n'y a pas de limitation d'âge. Moi, je me suis converti à 18 ans et c'est à 20 ans que j'ai appris la guitare. Pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir diriger la louange dans mon église, et pendant des années, soit dans les rues, soit dans l'église, j'ai dirigé la louange. Bon, Cathy a repris le relais très avantageusement, et elle-même, elle a transmis, justement, à des gens comme Pierre, comme David et comme d'autres. Et c'est tellement important, ça, de savoir que, oui, Dieu m'appelle peut-être même quand j'ai 20 ans, 30 ans ou 40 ans à me mettre à un instrument de musique. Parce que ça fait partie, alors j'insiste beaucoup, mais c'est pas un détail, c'est vraiment important. Dans la pensée biblique, la louange. Première chose que David établit, mis à part le sacerdoce bien sûr, qui était déjà établi avec la lignée d'Aaron, etc., c'est les équipes de louange. Septièmement, bien sûr, ensuite, pour une implantation d'église, il faut la direction de Dieu et le temps de Dieu. C'est un petit peu de la responsabilité des anciens, mais aussi de la communauté, de le gérer. Et cette direction de Dieu, ça peut se faire de façon surnaturelle, comme Paul, un jour il a un songe, un Macédonien lui apparaît, « Viens nous secourir en Macédoine !» Et Paul comprend qu'il y a un appel là-bas et qu'il faut y aller. Donc ça peut être par quelque chose de surnaturel, mais ça peut être aussi par le simple bon sens. Telle région, telle ville manque d'église, n'a presque rien au niveau du témoignage de l'évangile, eh bien il faut planifier une implantation. Dieu n'est pas contre le bon sens. Après, comme je dis, il y a le timing, il y a etc. Huitièmement, une stratégie et une persévérance. Parce que c'est un combat d'implanter une église, mais c'est tellement beau. Et j'ai connu des implantations d'églises qui ont échoué, qui ont duré quelques années, puis ça s'est arrêté. Ben, alléluia, ça a duré le temps que ça a duré, c'est une bénédiction. Mais j'en connais beaucoup plus qui ont duré. Et je trouve que c'est formidable. En tant que chrétien, de temps en temps, je réfléchis, vu mon grand âge qui avance, et je me dis, qu'est-ce qu'on va laisser ? Qu'est-ce qu'on va laisser quand on va partir ? Nos enfants, nos petits-enfants, pour ceux qui en ont, on va laisser... Et si on laissait des églises ? Et si on laissait des églises derrière nous ? Parce que là, ça veut dire qu'on aura travaillé pour le royaume, on aura répondu au mandat de Dieu de remplir toute la terre. Toute la terre. Vous voyez, on est parti du mandat global de Dieu pour les humains pour arriver au mandat apostolique qui requiert des personnes diverses avec des dons différents et surtout avec le désir de servir Dieu dans une aventure qui rendra le témoignage de l'Évangile pérenne dans un secteur qui a besoin de la bonne nouvelle du salut en Jésus. Certains seront parfois appelés à déménager, mais pas toujours. Je l'ai dit, moi, j'ai participé à pas mal d'implantations, à plusieurs implantations d'églises, et puis je suis toujours resté au même endroit. Dieu ne m'a pas dit « pars, c'est toi qui pars ». C'est d'autres qui sont partis, mais gloire à Dieu. Ou d'autres qui étaient déjà là-bas et qu'on a encouragé, qu'on a lancé, j'allais dire, dans cette belle mission. Il y a beaucoup de secteurs qui ont besoin de l'Évangile en France et autour de nous. Le CNEF, vous savez, le Conseil national des évangéliques de France, a lancé il y a quelques années un défi pour avancer dans l'évangélisation de notre nation. Ce défi porte, ce projet, il porte un nom, une église pour 10 000 habitants. Ça leur semblait être, quand ils ont réfléchi, le minimum. Une église pour 10 000 habitants. Vous voyez, à Marguerite, il y a 6 000 habitants, il y a deux églises. Vous voyez la richesse qu'on a ? À Nîmes, il y a 150 000 habitants, il y a entre 15 et 20 églises. On est hyper riches. Vous allez à Arles, à côté, très peu. Vous allez à Beaucaire, Tarascon, quasi rien. Vous allez, etc. Donc, une église pour 10 000 habitants. On en est loin au niveau de la France, mais même dans une région, j'allais dire, hyper déjà évangélisée, même si je ne sais pas si on qualifierait notre région comme ça, mais c'est le cas en réalité, eh bien, il y a encore du travail, il y a encore des choses à faire. Et si ce n'est pas nous qui nous levons, qui va le faire ? Qui va le faire ? Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas toi. Alors formons-nous, formons les jeunes convertis, confions des responsabilités à de jeunes leaders, formons des musiciens, des chanteurs, intéressons-nous à la gestion administrative, encourageons l'évangélisation, sortons. Tout cela, on le fait déjà. Je prêche à des convaincus. Mais je ravive simplement le feu, je souffle un petit peu. Et puis j'informe les nouveaux qui nous ont rejoints, qui ne connaissent pas cet historique de l'Église, cette vision de l'Église et ce mandat de l'Église et les paroles prophétiques qui ont donné naissance à cette vision. Nous aurons alors l'immense privilège de démarrer des œuvres pionnières qui deviendront pérennes pour la gloire de Dieu et la manifestation de son royaume, et aussi, il ne faut pas l'oublier, pour la préparation de la venue prochaine du Messie de Dieu qui va venir en gloire pour parfaire le mandat toute la terre. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui, dès les premiers versets de la Genèse, nous montre ton plan et le mandat que tu nous donnes à chacun de regarder au-delà de nos frontières, au-delà de nos murs. Merci pour cette communauté, notre communauté. Merci pour, si nous regardons derrière tout ce que nous pouvons voir, mais Seigneur, nous ne voulons pas regarder derrière, nous voulons regarder devant. Et Seigneur, nous voulons te prier, je veux te prier pour dire, Seigneur, on veut encore. Nous sommes disponibles, Seigneur. Nous voici, envoie-nous. Tu nous as suscités pour répandre l'Évangile dans cette région, dans cette nation. Merci pour cet envoi, merci pour cette confiance que tu nous fais. Merci de nous confier ce travail que Jésus lui-même sur terre n'a pas fait, puisqu'il s'était limité à Israël, mais qu'il a confié à tous ceux qui croiraient en lui, et nous en sommes. Alors, Seigneur, je te prie de susciter en nous un feu nouveau. Seigneur, qualifie parmi nous. Seigneur, appelle parmi nous. Seigneur, je te prie pour les anciens, pour que tu les conduises dans leur réflexion sur ce sujet qui a déjà lieu. Seigneur, manifeste-toi. Bénis nos anciens, Seigneur. Seigneur, je te prie aussi de bénir notre jeunesse, nos enfants. Seigneur, j'ai parlé d'en faire des musiciens, des chantres pour l'Éternel, mais pas que ça, Seigneur, aussi des prédicateurs, mais aussi des pasteurs, mais aussi des prophètes. Seigneur, suscite, lève parmi nous des ministères encore. et que notre Église soit connue pour être une Église qui multiplie, pas pour sa gloire, mais pour ta gloire, pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. J'allais confier le micro à quelqu'un d'autre, mais non.